mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 16 avril. Et aujourd'hui on va faire un petit peu des chauds et froids puisqu'on va parler pas mal d'eau et aussi de feu, voilà. Avec tout d'abord eh bien, du nouveau des rebondissements encore dans cette histoire de contamination des eaux en plastique, les fameuses eaux minérales naturelles qui ne sont finalement pas si naturelles que ça. Et cet aspect rebondissement vient en tout cas de la publication par Le Monde d'une nouvelle enquête sur notamment la manière dont les pouvoirs publics ont géré les informations en leur possession sur justement les procédés de fabrication et de mise en bouteille de ces eaux naturelles. C'est sur la chaîne du Sénat qu'on trouve cet article sur publicsenat.fr et qui revient donc sur ces enquêtes produites par Le Monde et Radio France, qui avaient déjà fait de grosses révélations au mois de janvier sur la qualité de l'eau en bouteille, on va en reparler, mais qui rapportent maintenant justement comment ça s'est organisé en amont et comment aussi le groupe Nestlé, puisqu'il va être quand même beaucoup question de lui, s'est arrangé pour que ces informations restent un petit peu sous les radars et surtout que la législation ne s'applique pas dans son cas. Alors sur la site du Public Sénat, sur le site publicsenat.fr, c'est le sénateur socialiste Hervé Gillet qui qualifie de scandale justement les révélations du Monde et de Radio France. Et il explique quand on manque de transparence, c'est encore pire que tout. On peut aller vers une catastrophe industrielle à cause de ce manque de transparence. Alors on va revenir à cette première enquête qui était sortie le 30 janvier dernier, dans laquelle on découvrait qu'une grande partie des eaux en bouteille qui sont vendues en France, et donc notamment par le groupe Nestlé et le groupe Source Alma, eh bien que toutes ces bouteilles subissent des processus de purification. Or, le procédé de purifier de l'eau est interdit par le Code de santé publique pour les eaux en bouteille dites minérales ou de source, puisqu'elles sont censées sortir telles quelles, justement, des sous-sols et donc être pures de toute intervention humaine. Eh bien, les différentes enquêtes, justement, ont montré que ces eaux avaient des contaminations importantes, et notamment une note de l'ANSES rapportait la présence, par exemple, de pesticides en décomposition, ou des métabolites, on appelle ça aussi des métabolites dans cette eau, mais aussi des bactéries de différentes sortes, dont notamment des bactéries Escherichia coli, donc des restes du traitement des eaux usées par les humains. Et on y trouvait aussi encore les fameux PFAS, là, les per- et polyfluoroalkylés dont je vous ai pas mal parlé ces derniers temps, puisqu'il y a eu un petit peu des nouveautés dans ces affaires. Donc ces PFAS qui sont des substances chimiques, je le rappelle, qu'on appelle souvent les polluants éternels. Certaines sont jugées cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer. Et vous avez peut-être suivi, il y a eu une manifestation des employés du groupe Tefal ce week-end qui ont permis justement à ce qu'une partie de ces PFAS continue à être autorisée, notamment pour préserver le fonctionnement de cette usine à poêle en Tefal. Mais ce n'est pas le sujet de notre papier du jour. Le sujet, c'est que ces PFAS se retrouvent aussi dans les bouteilles d'eau. Si on résume un petit peu justement toute cette histoire de contamination, c'est UFC Que Choisir qui, au mois de janvier, donc suite à cette enquête, résumait tout cela. Alors, les procédés de purification dont on parle, ça peut être par exemple l'injection de sulfate de fer, l'utilisation de charbon actif pour fixer certains composés dans l'eau, les ultraviolets, de la microfiltration inférieure au seuil autorisé. Tout ça donc pour masquer les contaminations de ces eaux de source et de ces eaux minérales qui ne sont pas si propres que ça. Et donc pour avoir de l'eau correcte à mettre en bouteille, ces industriels dont Nestlé Waters ont eu recours à des systèmes de purification, or c'est interdit. Ce n'est donc plus de l'eau minérale qu'ils nous vendent et ça laisse des petites questions quand même sur notamment le prix et le marché qui est derrière. Bon, vous l'aurez compris que quand même ces processus étaient là pour a priori dépolluer ces eaux. Mais cela dit, la présence de nanoparticules, notamment liées au plastique, des bouteilles, elle, n'est pas soulevée dans cette enquête. Alors, au-delà donc de ces contaminations d'un certain nombre de sites de production des eaux en bouteille, hein, qui sont liées aux activités humaines, alors tout ce qui est pesticides, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est l'agriculture, mais pour ce qui est des problèmes bactériens, ça va être lié aussi au mauvais traitement des eaux ou au ruissellement des eaux de surface, mais en tout cas, voilà, sur les activités humaines. Or, en plus de toutes ces problématiques-là, c'est la question dont ça a été géré par les pouvoirs publics. En effet, les enquêtes mettent en lumière la défaillance de ces pouvoirs publics, et c'est ce point qui suscite notamment le mécontentement des sénateurs, chez qui on a commencé cet petit article et cette balade dans le monde trouble des eaux naturelles. Le Monde et Radio France, dans leurs enquêtes, on vient donc de rapporter que l'IGAS, c'est l'acronyme de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, avait déjà réalisé une enquête en 2021 et les conclusions de cette enquête n'ont pas été rendues publiques. La note de l'Agence Nationale de Sécurité aussi faisait état de la qualité insatisfaisante de l'eau. Cette note-là, elle a été datée d'octobre 2023, elle est également restée confidentielle. C'est ça qui pose question donc dans cette actualité du jour. Pour le président du groupe écologiste au Sénat, Guillaume Gontard, il y a donc un problème général sur la question des contaminations. L'ensemble des eaux de notre territoire commence à être contaminées, impropres à la consommation. Et face à cette situation, donc, les sénateurs de gauche mettent en cause la responsabilité du gouvernement. Malgré tout, si Bruno Le Maire a indiqué, donc, en réponse on va dire, à la question de ce sénateur, il a dit partager la gravité des faits, mais Bruno Le Maire indiquait également s'en remettre à l'enquête judiciaire en cours, donc il ne se prononce pas. Cette réponse a paru insatisfaisante donc pour le sénateur socialiste, qui fustige ainsi le manque de transparence de la part du pouvoir exécutif. Ce scandale, dit-il, qui est en train de se consolider, démontre une opacité et questionne la responsabilité du gouvernement. En gros, on a un gouvernement qui reconnaît la gravité des faits, mais n'agit pas et s'en remet à la justice. C'est tout le problème du « en même temps ». À partir du moment où les résultats nous donnent une eau impropre à la consommation, on doit retirer ces produits du commerce, tranche ainsi le sénateur Guillaume Gontard. C'est une évidence aussi pour Florence Lassarade, qui est aussi au Sénat et qui estime qu'il aurait fallu rappeler immédiatement les produits concernés pour des raisons sanitaires, mais également tout simplement pour rassurer les consommateurs. Ces eaux de source et eaux minérales naturelles, ce sont leurs dénominations légales. Théoriquement, elles sont protégées des risques de contamination et de pollution parce qu'on va les chercher profondément dans les nappes souterraines. C'est là-dessus, sur ces arguments, que jouent d'ailleurs les industriels. Et ça leur permet de vendre en moyenne ces eaux 100 fois plus cher que l'eau du robinet. Une étude du mois de janvier aussi, qui était faite, une étude américaine publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Science. Déjà, elle écornait un petit peu cette jolie histoire des eaux pures qui viennent des profondeurs en décomptant par exemple 240 000 fragments de micro ou de nanoplastique par litre d'eau pour différentes marques d'eau en bouteille dans le monde. Et ça, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. On parle de à peu près 30% des marques qui sont concernées, dont toutes les marques de Nestlé Waters, qui détient quand même à lui seul un tiers du marché des eaux en bouteille en France. Les marques, vous les connaissez sûrement, c'est Vittel, Contrex, Épar et Perrier, entre autres. Alors le groupe Nestlé Waters assure avoir retiré de ses usines les traitements ultraviolets, donc qui sont mis en cause parce qu'ils sont illégaux, et les filtres à charbon actif, mais continue la microfiltration de ces eaux avec des mailles inférieures à 0,8 microns. Et c'est sur ce point d'ailleurs que le groupe demande un assouplissement de la réglementation, dit-il, faute de quoi l'exploitation de certains de ces sites en France, par exemple ceux dans les Vosges ou dans le Gard, eh bien l'exploitation de ces sites pourrait être abandonnée, menace-t-il. Encore un chantage à l'emploi qui fait mouche auprès du gouvernement, qui a donc assoupli la réglementation sur les microfiltrations. On pense bien évidemment à cette histoire de poêle en téfal dont je vous ai parlé aussi un peu plus tôt, où finalement, bah, pour ne pas fermer des usines, on change la réglementation. Et puis bah, maintenant que les eaux sont plus filtrées, bah, du coup peut-être que la qualité va finalement être pire encore, puisque toutes ces pollutions qui sont en amont vont se retrouver dans les bouteilles. On parle en tout d'une consommation quotidienne de 36 millions de bouteilles d'eau en France quand même, c'est assez effarant. Bon voilà, en attendant que ça se tasse, on ne peut que vous recommander de boire de l'eau au robinet et de mettre ça dans des gourdes, éventuellement vous filtrez ça tout seul. On trouve maintenant des choses pas chères à faire. En tout cas, acheter ces bouteilles d'eau minérale en plastique, ça semble être une aberration maintenant de A à Z. Et puisqu'on est dans l'eau, on part dans l'eau salée avec quelques nouvelles des océans. Alors on le sait, l'océan se réchauffe sous l'effet des activités humaines, mais ça n'empêche pas des coups de froid ponctuels, et ces coups de froid sont mortels pour certaines espèces d'animaux marins. Voilà ce que vient de mettre en lumière un article qui a été publié hier, lundi, dans la revue Nature Climate Change, qui s'intéresse donc au changement climatique. Les effets du réchauffement et des vagues de chaleur sur les espèces marines sont bien démontrés. En revanche, les effets des épisodes de froid extrêmes sont mal connus. Ça, c'est le préambule de cet article qui a été publié et rédigé par le premier auteur de l'étude. Il s'appelle Nicolas Lubitz. Il est biologiste dans l'université australienne James Cook. Avec toute son équipe, donc, ce chercheur s'est intéressé aux effets des remontées de courants froids, car le changement climatique induit des plus grands mouvements de masse d'eau, et donc c'est de l'eau froide des profondeurs des océans qui remonte vers la surface, et ça a pas mal de conséquences sur notamment la faune. Ce phénomène, en anglais, on l'appelle « upwelling », on peut l'observer aussi d'ailleurs en Méditerranée, et il est donc rendu plus fréquent à cause du changement climatique. L'article revient notamment sur un événement meurtrier qui a justement déclenché cette étude. Cet événement meurtrier, c'était la mort brutale de 260 animaux de 81 espèces différentes. Ça s'est passé le 2 mars 2021 au large de l'Afrique du Sud, au cours donc de ce phénomène de upwelling. Donc je vous rappelle, c'est la remontée d'eau froide des profondeurs de l'océan vers les zones du haut où sont plutôt concentrés les animaux. Un upwelling intense, donc en 2021, marqué par une chute de température de près de 10 degrés Celsius en moins de 48 heures, et ça a duré 7 jours. Normalement, ça dure 1 à 3 habituellement, donc ça peut laisser le temps aux animaux de bouger ou d'attendre le réchauffement. Mais là, sur 7 jours, ça a justement eu des conséquences dramatiques. Par exemple, la mortalité des tortues marines par hypothermie ou d'autres espèces qui ont du mal à bouger dans ces épisodes. On avait déjà documenté ça, mais l'analyse de cet épisode donc de mars 2021, qui s'est étendue quand même sur 230 km, montre que même des organismes marins très mobiles comme des requins taureaux ou des raies mantas ont succombé à un froid extrême et soudain. Au-delà donc de ce cas précis qui a été le déclencheur de ce nouveau champ d'études, les scientifiques estiment qu'il convient de mieux surveiller donc ces phénomènes. Ils utilisent par exemple des données fournies par des satellites, et ça permet de mettre au jour une tendance à l'augmentation du nombre chaque année et aussi de leur intensité de ces événements froids. Ça se passe souvent pendant les étés australes. Entre 80 et 2022, ils ont pu les étudier. Il y a eu 3 cellules de upwelling étudiées. On était au large du courant des Aiguilles, c'est à l'est de l'Afrique du Sud. Et là, tout comme sur la côte est de l'Australie, ce phénomène pourrait être favorisé par les variations de pression ou de courant qui sont engendrées par le changement climatique, et notamment donc une hausse de la proportion des vents qui sont favorables à la remontée des eaux, parce que ce qui se passe dans l'air peut influer aussi à ce qui se passe sous l'eau, et vice-versa d'ailleurs. Cet article, publié donc par l'équipe australienne, ne s'arrête pas là, puisque les auteurs ont ensuite étudié les mouvements et l'écologie thermique d'une des plus grandes espèces qui s'est échouée sur les côtes d'Afrique du Sud, à savoir le requin bulldog. L'idée, c'était de comprendre sa réaction à ces phénomènes de remontée d'eau. Alors, ils ont utilisé des données issues de l'observation et suivi des poissons aussi qui avaient des badges. Les chercheurs ont ainsi pu montrer que ces requins bulldogs se sentaient bien, en gros, à une température entre 20 et 25 degrés, mais que dès que l'eau était passée en dessous de 19 degrés, ils cherchaient à la fuir. Et donc, dans ces cas de upwelling, ça les fait remonter encore plus en surface et ils nagent plus près de la surface à la recherche des eaux chaudes, hein. Un peu comme vous quand vous allez vous baigner et que l'eau est trop froide en bas, vous faites la planche, quoi. Cette étude est donc l'une des rares à illustrer le lien entre les épisodes de froid extrême liés au climat et l'augmentation des taux de mortalité dans la vie marine. Salut le docteur Valentina Di Cento. Elle fait d'ailleurs un lien avec un autre travail qui a été lui consacré à une autre espèce qui s'appelle les tortues de Kemp et qui montre que justement avec l'augmentation des températures moyennes des océans, puisque c'est quand même plutôt de ça qu'il s'agit, si on prend la moyenne sur la planète, eh bien les tortues de Kemp, comme il fait plus chaud, elles vont se déplacer vers les pôles et ça transforme les eaux du nord-ouest de l'Atlantique, en partie la baie de Cape Cod, en zone cruciale pour leur recherche de nourriture. et une augmentation récente justement des échouages de ces tortues dans la baie de Cape Cod a pu être liée au réchauffement accéléré du golfe du Maine, accompagné d'intenses remontées d'eau froide. Ce sont deux phénomènes conjoints qui participent à déstabiliser complètement les lieux de vie de ces espèces. Ces espèces se retrouvent donc prises en étau. D'un côté, vous l'aurez compris, du réchauffement des eaux générales qui les pousse notamment vers le pôle sud, mais de l'autre, les zones d'accueil où elles peuvent ensuite se déployer sont plus souvent sujettes à des phénomènes de remontée d'eau froide qui peuvent les tuer. Donc elles vont se mettre dans des zones où elles ont l'air mieux, et puis soudain, donc, le piège, parce que très très vite, la température diminue, et ces espèces n'ont pas le temps de bouger, et donc elles meurent d'hypothermie. Tout cela laisse supposer que de nombreuses espèces différentes seront affectées par les remontées d'eau froide dans les eaux qui se réchauffent dans le cadre du changement climatique, résume cette chercheuse. Les conséquences économiques, elles, se font déjà sentir. Ainsi, dans l'article de l'équipe de Nicolas Lubitz, il est souligné que l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces remontées d'eau en Afrique du Sud a déjà été liée à des déplacements des frayères de l'anchois d'eau froide. L'anchois d'eau froide, une espèce donc très pêchée, et ça a pu conduire à des baisses de rendement de pêcherie en Australie et donc aussi influer sur les économies locales. Allez, je vous ai emmené dans l'eau froide, on va aller dans la fournaise des incendies de forêt avec le Canada qui se prépare au pire pour cette saison. Notamment pour essayer d'éviter une saison des feux de forêt aussi intense que l'année dernière en 2023, le Canada essaie donc de prendre les devants, mais le pays fait toujours face à un crucial manque de pompiers. Tout est en place en tout cas pour que le Canada s'embrase à nouveau. Il y a plusieurs tendances inquiétantes, expliquait le 10 avril le ministre de la Protection civile, Harjit Sajjan, avant que son collègue du ministère de l'Énergie ajoute aussi que le gouvernement se préparait au pire. S'il est trop tôt donc, pour prédire une saison des feux de forêt aussi intense que l'an dernier, Ottawa, la capitale, a tout de même voulu sonner l'alarme. L'an dernier, on rappelle que 18 millions d'hectares de forêt sont partis en fumée au Canada. Ça fait à peu près la surface de l'Angleterre et de la Suisse réunies en une seule saison. Donc le Canada est sur le qui-vive en raison de trois indicateurs qui sont très inquiétants. Tout d'abord une sécheresse qui a été perceptible dans tout le pays. Ensuite une faible accumulation de neige et des températures plus élevées que la moyenne cet hiver. On était à 15 degrés Celsius en février à Montréal par exemple. C'est un record battu de plus de 4 degrés par rapport au précédent. Le Canada s'attend donc à davantage d'incendies très tôt cette saison, en particulier dans l'ouest du pays et dans le sud du Québec. Ainsi, à Québec, début avril, 20 brasiers ont déjà été recensés, alors que la moyenne pour les dernières décennies, c'était 4 brasiers. Dans l'ouest du pays, l'Alberta, la région de l'Alberta a dénombré près de 60 feux, qu'il appelle des feux zombies. C'est des feux hibernants qui brûlent sous le sol, donc dans la tourbe de ces forêts, sous la neige. Une forme de braise qui attend, et puis dès que le temps est plus climat, bah ça repart. Du coup, et c'est très très dur à prévoir et à contrôler. D'ailleurs, des dizaines de pompiers luttent depuis des semaines déjà pour tenter de les éteindre. Avec la conférence de presse ministérielle qui a été rendue ce 10 avril, donc, et au cours de laquelle ces annonces ont été faites, le gouvernement canadien tenait aussi à montrer qu'il ne partait pas d'une page blanche à l'approche de cette saison chaude et que des mesures étaient prises. Ottawa a notamment libéré 250 millions de dollars canadiens, ça fait environ 170 millions d'euros, pour que les provinces, chaque province, puisse se doter d'équipements de lutte contre le feu. Et le gouvernement a aussi donné 160 millions, donc environ 100 millions d'euros, pour que les communautés autochtones soient mieux préparées. En effet, l'année dernière, ces communautés autochtones avaient été en première ligne lors des incendies et des dizaines d'entre elles avaient été évacuées de leur lieu de vie pendant l'été. Mais vous l'aurez compris, les défis sont immenses, aussi immenses que l'étendue de ce pays. Sur Terre, déjà, la bataille que mène le Canada pour lutter contre la pénurie de pompiers semble un peu perdue. Le nombre de ces pompiers est en chute libre et chaque été chaud voit des soldats du feu raccrocher leurs lances et démissionner. Ainsi, d'après l'Association canadienne des chefs de pompiers, 30 000 d'entre eux sont partis dans les 7 dernières années. Ouais, c'est la grosse hémorragie. Cité dans le journal La Presse, une agence de presse nationale, le président de l'association, Ken McCullen, donc l'association de ces pompiers, des chefs de pompiers canadiens, il parlait d'une année 2023 qui a laissé des traces. L'année dernière, dit-il, nous avons demandé aux pompiers volontaires d'intervenir pendant des mois, laissant derrière eux leurs responsabilités, leur emploi, leurs obligations parentales ou conjugales. À la fin de la saison dernière, certaines personnes ont simplement dit « J'en ai fini, je ne peux plus faire ça ». Le Canada essaye donc tout de même d'arrêter cette hémorragie. Plus de 600 pompiers ont été formés cette année. Et Ottawa essaie d'en attirer de nouveaux, avec notamment des incitatifs fiscaux, en doublant le crédit d'impôt pour les pompiers volontaires. Et du côté des provinces, puisque c'est un pays fédéral aussi, le Canada, on accélère aussi la cadence. Ainsi, au Québec, la Société de protection des feux de forêt, des forêts contre le feu, pardon, veut faire grimper les effectifs de près d'un tiers en 2 ans. Elle tente notamment au plus vite de trouver 10 pilotes aériens, afin de pouvoir des postes à bord de ces avions citernes, les fameux Canadair. Face au feu, chaque jour et chaque recrue compte donc. Le 9 avril dernier, la SOPFEU a déjà fait passer le danger d'incendie au niveau extrême dans plusieurs régions du Québec. Et on continue, on va terminer justement dans l'univers de la forêt. On revient en France avec cette annonce, eh bien, qui a été relevée dans les colonnes du journal Reporter, ainsi que la précédente d'ailleurs, je tenais à le ramener. Une annonce donc un petit peu mal perçue du côté de ce média écologiste, puisqu'il explique que pour s'occuper de la planification écologique des forêts, le gouvernement n'a trouvé personne de mieux que l'ancien représentant des acteurs économiques de la filière bois pour donc prendre la tête de cette fonction. C'est d'ailleurs dans le média Contexte qu'on a pu lire cette info. Tout premièrement, ça a été publié ce 12 avril. Un décret donc publié le 11 avril explique que l'ancien président de France Bois Forêt, qui s'appelle Jean-Michel Servent, a été nommé délégué interministériel aux forêts. Donc l'ancien président de France Bois Forêt, c'était un organisme qui défend les intérêts des propriétaires, des coopératives, des pépiniéristes et des exploitants de ces écosystèmes, donc des gens qui sont plutôt dans une gestion agricole de la forêt. C'est un peu du niveau de la nomination de Rachida Dati à la culture, c'est détonnant. Ironisait d'ailleurs le conseiller du domaine de Chantilly, un ancien membre de France Nature Environnement, Hervé Le Boulay, qui en parlait donc aux journalistes de Reporter. Jean-Michel Servent, donc, qui vient d'intégrer ce poste, est un polytechnicien qui est passé par la société forestière de la Caisse des dépôts, puis l'entrepreneuriat et le conseil. Il a défendu pendant 3 ans donc, les intérêts de cette fameuse filière bois. En tant que président de France Bois Forêt, il a notamment été amené à prendre position sur des sujets qu'il sera maintenant amené à traiter dans ses nouvelles fonctions. On peut par exemple souligner qu'il s'était opposé à une proposition de loi de la députée Sophie Panonacle, une proposition de loi pour encadrer les coupes rases. Les coupes rases, c'est quand un propriétaire de parcelle ou un exploitant décide de couper tous les arbres nets pour valoriser au plus vite et au maximum donc, les troncs et toute la masse qui a été faite. Mais au niveau écosystème, vous vous en doutez, ça remet les choses un petit peu à zéro. Cette nomination fait donc bien grincer les dents du côté des écologistes et des défenseurs des forêts. L'association Canopée a notamment reproché à ce nouveau délégué interministériel d'avoir quitté une réunion qui était organisée par le ministère de la Transition écologique ce 6 mars au motif de sa seule présence. Donc le fait que l'association soit là, le délégué interministériel a refusé de participer à la réunion. Une attitude qui interroge donc pour quelqu'un dont la mission va être de faire du lien entre les différents ministères et de discuter avec l'ensemble des parties prenantes. Visiblement, il est lui-même assez partie prenante. Pour nous, ce n'est évidemment pas bon signe, souligné de son côté Christophe Chauvin, donc de France Nature Environnement, qui a été lui aussi sollicité pour réagir dans cet article de Reporter. En tant que délégué interministériel aux forêts, Jean-Michel Servent devra promouvoir, coordonner et suivre la mise en œuvre de la planification écologique de la forêt et de la transformation et des usages du bois. Il, par exemple, s'occupait aussi d'assurer le renouvellement forestier et protéger donc des écosystèmes menacés par le changement climatique. Or, il est quand même le porte-voix de la filière bois. Donc, pour s'ouvrir à des visions plus environnementales et écologiques, il faut un certain talent. Voilà, grincer donc aussi des dents Christophe Chauvin de France Nature Environnement.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Et c'est là-dessus que on se quitte pour aujourd'hui. Les Nouvelles du Monde, c'est terminé. Vous la retrouverez en rediff vers 19h30. Et puis, d'autres Nouvelles du Monde sont attendues pour ce jeudi à 10h. Ah non, pardon, ce jeudi, je ne suis pas là, je serai en congé. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté des podcasts si jamais vous avez envie d'écouter des éditions précédentes. Et puis, ben voilà, on se quitte là-dessus. Portez-vous bien. Attention au vent. Il faut rester couvert, il paraît, au mois d'avril.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interviews, communiqués. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Mais que se passe-t-il ?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.